France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mercredi 1er mai, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un 1er mai donc sous très haute tension avec un dispositif de sécurité exceptionnel pour tenter d'éviter les violences alors que les autorités redoutent la présence de centaines de militants radicaux dans les traditionnels cortèges syndicaux. À 8h20 justement, on en parlera avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Au Venezuela, Juan Guaido appelle ce matin à la poursuite de l'opération Liberté après une journée marquée par de violents affrontements. Des réfugiés tibétains en grande difficulté aux portes de Paris. Le cauchemar qui continue pour le PSG battu hier soir par Montpellier. Et puis nous reviendrons sur la mort d'Anémone hilarante Thérèse, bouleversante Marcel.
Bonjour Karine Bécard.
Bonjour à tous.
Votre invité tout à l'heure à 7h50.
C'est une femme d'action qui pendant 30 ans est allée partout où l'histoire s'est écrite. Aujourd'hui, cette reporter de guerre a décidé de revenir sur son immense carrière. Elle nous livre son récit. Comment a-t-elle vécu ce métier? A-t-il aujourd'hui beaucoup changé? Je vous donne rendez-vous effectivement à 7h50 avec Martine Laroche-Joubert.
À tout à l'heure.
France Inter.
C'est la deuxième fois que je monte à Paris et j'espère que le 1er mai sera une date mais à jamais gravée dans ma mémoire, hein, mais vraiment. Une énorme manifestation, la Révolution, 1789, numéro 2.
Combien seront-ils comme Pierrot venu du Puy-de-Dôme à manifester à Paris aujourd'hui et avec quelles intentions? Le gouvernement redoute des violences et des dégradations. Le ministre de l'Intérieur estime que 1000 à 2000 Black Blocs pourraient s'infiltrer dans les cortèges parisiens, d'où la mobilisation de 7400 policiers et gendarmes, avec Emmanuel Leclerc, des contrôles préventifs qui ont déjà commencé.
Les gares, les principaux axes routiers autour de la capitale et même les parkings aux portes de Paris sont ciblés ce matin par les unités de police et de gendarmerie déployées pour ce 1er mai. Des centaines d'agents qui ont pour mission de détecter d'éventuels manifestants équipés pour des émeutes urbaines comme cet homme, arrêté hier avec un choqueur, une arme à impulsion électrique, une matraque et un couteau à cran d'arrêt. Pour le reste, la préfecture de police de la capitale et le ministère de l'Intérieur ont déployé des unités d'intervention conséquentes dans tous les secteurs des cortèges prévus ce matin et cet après-midi. Ils savent que toutes les mouvances d'extrême gauche seront là, 1000 à 2000 activistes qui devraient pouvoir compter sur plusieurs milliers de gilets jaunes désormais rompus aux actions violentes contre les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a estimé hier que le refus de la violence par les syndicats est net, clair, mais cela n'empêche pas un risque majeur que ça dégénère en cas de formation de Black Bloc au sein même des défilés des syndicats.
Manifestation à Paris, donc le cortège officiel CGT-FSU-FO partira de Montparnasse à 14h30 pour rejoindre la place d'Italie. Les syndicats dits réformistes, CFDT en tête, manifesteront ce matin place de l'Odéon. Des cortèges également dans toutes les grandes villes. Certaines préfectures ont cependant pris des arrêtés pour interdire ou limiter le périmètre des manifestations. C'est le cas notamment à Bordeaux, Lyon, Caen, Rouen ou Nancy. Et puis à Toulouse, l'une des plates fortes du mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre, la manifestation d'aujourd'hui pourrait être l'occasion, Stéphane Garcia, de concrétiser la fameuse convergence des luttes.
C'est simple pour Cédric Cobert, le secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne. Quoi qu'il arrive, ce 1er mai
marquera l'histoire, puisque c'est le premier 1er mai du mouvement des Gilets jaunes.
Et il reconnaît qu'au départ, pourtant, ça a été compliqué entre les deux parties.
Il y a eu une tendance à se regarder en chaîne de faïence des deux côtés. Ce qui a évolué assez rapidement, d'ailleurs, avec des rencontres qui font qu'à aujourd'hui, chacun est convaincu que c'est un mouvement de masse, un mouvement de classe aussi.
Un avis également partagé par des Gilets jaunes.
Aujourd'hui, il n'y a plus un seul faux combat, tout est bon à prendre.
Les combats qui sont les leurs sont les nôtres, donc il n'y a pas de raison qu'on converge pas.
Des manifestants qui convergeront de tout Midi-Pyrénées pour une grande manif régionale à Toulouse, comme Bertrand par exemple, venu du Tarn.
Moi je l'ai fait à Albi, je l'ai fait à Castres, je l'ai fait à Gaillac, mais à Toulouse jamais, ce sera une première. Nous on a besoin de nombre, au plus on aura de nombre, au plus on sera visible.
Ce qui inquiète en revanche les syndicats comme Julien Lassalle, secrétaire régional Sudrail, c'est la sécurité de l'événement et les tensions possibles avec les forces de l'ordre.
On fait passer quand même la contestation sociale pour des gens qui seraient uniquement des casseurs, des violents, des séditieux. Apaisons les choses, laissons les gens aller manifester et surtout que le dispositif des forces de l'ordre ne soit pas ce qu'on a pu voir les samedis précédents.
Début du rassemblement à 10h, place Esquirol à Toulouse.
Des violences policières que dénoncent plus de 350 journalistes dans une tribune publiée ce matin sur franceinfo.fr. Journalistes, photographes, indépendants ou salariés évoquent des intimidations, des destructions ou des saisies de matériel, des coups de matraque et l'interpellation et le placement en garde à vue de plusieurs confrères. Un cap répressif a été franchi, estiment les signataires qui demandent au gouvernement de faire respecter la liberté de la presse. Une journée à haut risque donc que le chef de l'État, qui a appelé à la plus grande fermeté face aux casseurs, suivra depuis l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit à la mi-journée les fleuristes et les professionnels des métiers de bouche. Édouard Philippe sera lui aussi à Paris avant de partir dans la soirée en Charente où les services de Matignon seront délocalisés durant 2 jours.
Il est 7h06. Agnès, c'est l'autre grand titre de l'actualité ce matin, la situation toujours confuse au Venezuela.
Dans un message vidéo diffusé ce matin sur les réseaux sociaux, Juan Guaido appelle de nouveau ses partisans à descendre dans les rues au lendemain d'une journée marquée par des affrontements entre partisans et opposants au président Nicolas Maduro, qui a qualifié la séquence d'escarmouche putschiste. Nicolas Maduro qui dément avoir eu l'intention de fuir à Cuba, comme l'a affirmé le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Quelques centaines de militaires ont rejoint le camp de Juan Guaido hier, entraînant des violences qui ont fait une soixantaine de blessés. Reportage à Caracas pour France Inter du correspondant de RFI Benjamin Delisle.
Sur l'autoroute face à la Carlota, les affrontements durent depuis des heures. Des manifestants, foulards sur le nez, sont appuyés par les militaires mutés qui porte un brassard bleu. Des tirs se font entendre, Elisabeth s'éloigne, les yeux rougis.
On essaie de s'approcher et ils tirent des gaz lacrymogènes, de la chevrotine. Un jeune homme vient de passer avec le dos criblé de chevrotine.
Tout le quartier est en ébullition, non loin de là, devant le ministère des Transports, des collectivos paramilitaires proches du gouvernement ont tenté de disperser la foule, sans succès selon Jorge.
Quand je suis arrivé, il y avait des collectivos qui affrontaient des policiers municipaux. Ils ont été repoussés à l'intérieur et ne sont toujours pas sortis.
Les coups de feu se font entendre, la foule répond par des centaines de pierres jetées vers le ministère. Tout autour du quartier, la présence militaire se fait plus pressante, les charges se multiplient. Raphaël, 50 ans, dénonce une répression imbécile.
Nous espérons qu'ils vont avoir une prise de conscience au bout d'un moment et qu'ils vont rejoindre la cause de la liberté, celle du sauvetage de la démocratie.
Tous à survivre une journée historique, le début de la fin du gouvernement de Nicolas Maduro. Pourtant, celui-ci semble bien décidé à rester, d'autant que le haut commandement de l'armée lui a une nouvelle fois réitéré son soutien. Caracas, Benjamin Delisle, RFI pour France Inter.
La situation sociale en France, avec deux marques emblématiques en difficulté. Auchan a annoncé hier la mise en vente de 21 magasins. Plus de 700 salariés sont concernés. Le groupe traverse une période très difficile avec des pertes s'élevant à plus d'1 milliard d'euros l'an dernier. Et puis l'usine PSA de Mulhouse va devoir mettre un terme au contrat d'un millier d'intérimaires. Conséquence de l'arrêt de la production de la Peugeot 208. La direction affirme que le creux d'activité est temporaire avec dès 2021 la production à Mulhouse d'un nouveau véhicule. L'appel à l'aide à présent des associations qui prennent en charge les demandeurs d'asile tibétains. Depuis près de 10 ans, ces hommes et ces femmes qui fuient la répression chinoise sont pris en charge notamment à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, à moins d'une heure de Paris. Mais ces derniers mois, la situation est devenue intenable avec plusieurs centaines de réfugiés qui sont obligés de camper dans les bois, même si en théorie, l'État a pour obligation de prendre en charge ces demandeurs d'asile. Reportage signé Delphine Evenou.
Dans la petite cuisine de la péniche de l'association La Pierre Blanche, c'est l'heure de la plonge. Plus d'une centaine de Tibétains viennent de finir leur déjeuner. L'embarcation est devenue un point de chute incontournable depuis 2011.
Ils nous donnent à manger et nous aident beaucoup. Alors les gens viennent et restent. C'est comme ça depuis toujours. Alors on a suivi cette piste.
Le jeune homme fait partie des chanceux. Il vit sur la péniche comme une cinquantaine de personnes. Dans le vestiaire un peu plus loin, Tenzin, 25 ans, cherche de quoi s'habiller. Elle passe ses nuits dehors.
On dort dans la forêt, dans une tente. On est une centaine. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. C'est vraiment dur.
Ce camp, dans les bois, à 2 km, les Tibétains l'appellent la jungle.
C'est très isolé. Entre une station d'épuration et la gare RER, ils se sont fait chasser d'un peu partout.
Hugues Fresneau, directeur de la Pierre Blanche, est inquiet pour une fillette de 5 ans dont les parents sont malades.
Certains restent quelques semaines, d'autres plusieurs mois, sans aucune prise en charge. Quand on va voir la préfecture de région, il dit qu'ils sont saturés, débordés. C'est à l'État de prendre en charge toutes ces personnes, mais qu'ils ne peuvent pas. Un constat d'impuissance.
La France est l'un des pays européens où les Tibétains ont le plus de chances d'obtenir le statut de réfugié, un statut qui ne leur donne pas pour autant accès à un logement.
Conflans-Sainte-Honorine, point de chute des demandeurs d'asile tibétains, c'est à lire également sur franceinter.fr. Les quatre hommes, dont un adolescent de 17 ans soupçonné d'avoir projeté un attentat contre les forces de l'ordre en France, ont été mis en examen hier soir pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils ont été placés en détention provisoire.
Il est 7h10 et on parle de la calamiteuse fin de saison du PSG.
Nouvelle défaite hier soir face à Montpellier pour un match en retard de la 34e journée de Ligue 1. Un match sans enjeu, les Parisiens sont déjà champions de France, mais quel spectacle! Après avoir mené 2-1, les Parisiens ont finalement été battus 3-2 en raison notamment d'un but contre son camp de Kimpembe, le deuxième en 4 jours. Une soirée de cauchemar et un entraîneur au bout du rouleau, Stéphane Burgat.
Il regagne directement le vestiaire, le visage sombre. Le diagnostic du coach Thomas Tuchel est implacable.
On a perdu notre intensité complètement. C'est pas possible de faire des erreurs faciles et on a fait 3 erreurs individuelles. Pour ça, on a perdu.
Sont visés par l'entraîneur parisien Presnel Kimpembe et Leandro Paredes, fautifs sur 2 buts. Et sur le terrain, pendant ce temps, le capitaine Marquinhos tente une vaine médiation avec les supporters parisiens et s'inquiète de voir son équipe perdre toute combativité.
Je pense que c'est le moment le plus difficile. On pense à la saison prochaine, mais la préparation commence là. Déjà, on ne peut pas laisser le temps passer parce qu'on a 4 matchs et on ne peut pas faire 4 matchs de merde. Donc on continue à perdre des matchs et ça va se passer quoi après?
Une détresse qui contraste avec la joie montpelliéraine. Le buteur Andy Delors avait bien prévenu que tout se jouerait ici. Au moral.
Peut-être que nous, on avait plus envie qu'eux et c'est ce qui fait la différence au niveau. J'avais dit que s'ils sentaient dans nos regards que nous, on n'allait rien lâcher, on a espéré gagner le match, ils allaient craquer et on l'a fait en plus.
Et c'est la 7e défaite cette saison pour le Paris Saint-Germain, du jamais vu pour le club de la capitale depuis 2012. Au stade de la Mosson, Stéphane Burgat, France Inter.
Et puis l'Ajax Amsterdam s'est imposé 1-0 à Londres face à Tottenham en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Tellement drôle dans Le Père Noël est une ordure, tellement émouvante dans Le Grand Chemin. Anémone, de son vrai nom Anne Bourguignon, est morte hier à 68 ans des suites d'une longue maladie. Sa voix, son visage, son style, son franc-parler resteront dans l'histoire du cinéma et du théâtre. Portrait signé Jacqueline Pétrose.
Allô, appuyez sur le bouton.
Sa voix aigrelette, sa gouaille et son caractère ont marqué tous ses rôles. Anémone se fait connaître dans les années 80 en théâtre comme au cinéma avec le cultissime Le Père Noël est une ordure et La Troupe du Splendide. En 87, aux côtés de Richard Boranger, elle bouleverse dans Le Grand Chemin en femme en manque d'enfants.
Mais reconnais-le au moins. Tu tournicotes, tu finasses. T'es là comme une grosse araignée à préparer ton coup. Je te connais trop pour pas te deviner, va. Mais avoue-le. Du jour où t'as compris que ça t'achète, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant.
Le rôle lui vaut un César qu'elle vient chercher déguisé en révolutionnaire et elle en profite pour passer un message personnel.
Richard Anconina, si t'es devant ton poste, je t'aime.
Dans la vie, Anémone n'avait pas de tabou. Elle dit sans embâge regretter d'avoir eu des enfants, ce qu'elle modère en 2011 sur France 2.
Bah, ils ont le sens de l'humour.
C'est vrai.
Contrairement à certains journalistes. C'est vrai, faut le savoir quand même. Oui. Qu'à partir du moment où on a un gosse, on n'a plus de vie à soi. Il vous prend le temps, l'argent, l'énergie, tout. Un gosse, ça pompe tout.
Grande gueule et sans filtre, Anémone distillait en toute connaissance ses réflexions avec franchise et fiel. Déjà très fatiguée, en décembre 2017, elle avait fait ses adieux à la scène pour ses 50 ans de carrière.
Joyeux Noël, Pierre.
Pierre, alias Thierry Lhermitte, bouleversé et qui salue sur Twitter une grande actrice et conclut « Adieu, mon ami ».
Merci Agnès Soubiran.